F-I.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour, ce week-end nous vous emmenons au Cambodge, ce petit pays d'Asie du Sud-Est qui se remet doucement du traumatisme de la période Khmer Rouge. L'une des clés de son développement, c'est la valorisation de l'agriculture familiale qui fait vivre 80% de la population. Nous allons vous faire rencontrer ces hommes et ces femmes qui cultivent le sucre de palme, le poivre ou le riz, comme ici dans la région de Prenup, c'est dans le Sud-Est. Une digue de 89 km de long a été construite pour protéger plus de 10 000 hectares de terre de la montée de la mer et depuis, les riziculteurs y vivent bien.
Avant, on n'a pas ce confort. On est installé à petite cabane avec les 9 enfants. Ensuite, l'arrivée de la réputation des polders, notre vie, ça commence à s'améliorer. Nouvelle maison construite, nouvelle télé achetée et groupe électrogène aussi. Donc, on a maintenant tous les conforts. En fait, c'est quand l'eau salée ne rentre plus dans les rizières et dans les champs, c'est là que la récolte a augmenté et nous, on peut faire beaucoup de choses. Les autres abrutis sont plantés, les enfants peuvent aller pêcher, qui peut avoir beaucoup de produits de la pêche et donc notre vie a changé dès ce moment-là.
Un reportage au cœur des rizières que vous pourrez écouter tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Cambodge des clichés se résume au traumatisme de la période Khmer Rouge et au temple millénaire d'Angkor, mais sa réalité est évidemment bien plus complexe. C'est pour nous la faire découvrir que Sybille Véron et Romain Ozoui ont réalisé un web-documentaire Sok Sabai, bonne nouvelle du Cambodge, diffusé sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, ouais, joli cœur. Donc, le Cambodge fait partie des pays les plus pauvres de la planète, mais ce n'est pas cette image-là que vous avez voulu montrer, Romain.
Non, on a voulu montrer en fait tout ce qui se faisait au Cambodge de positif parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a avec la chute des Khmers Rouges énormément d'ONG qui sont arrivées massivement. C'est peut-être le pays qui a le plus d'ONG.
Peut-être un peu trop.
Sans doute trop. Mais de cette arrivée massive d'ONG, il découle énormément d'initiatives plus innovantes les unes que les autres. Et en se renseignant sur le Cambodge, on s'est dit il faut faire quelque chose sur ce pays parce qu'il se passe vraiment quelque chose de positif et que ce pays a une image de pays martyr en raison des Khmers Rouges.
Et vous êtes parti combien de temps, Sybille ?
À peu près deux mois et demi. On avait calé plusieurs reportages, interviews depuis la France, mais sur place on s'est laissé la liberté aussi de voir sur le terrain, de se laisser surprendre. Voilà, c'est comme ça qu'on a découvert une dernière initiative.
Alors on va parler de ces réalités dans quelques instants, mais il faut quand même rappeler que le Cambodge fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Alors il est classé au 138e rang en termes de développement humain par le programme des Nations Unies pour le développement. Ça c'est au-delà de toutes les petites initiatives, c'est quand même ça la réalité concrète.
Un Cambodgien sur trois qui vit sous le seuil de pauvreté, et effectivement c'est un pays qui avance à deux vitesses, parce que il y a donc cette pauvreté, et à côté de ça il y a un taux de croissance annuel qui est de 7% en moyenne, et qui fait du Cambodge une des économies les plus dynamiques de la région, alors qu'il y a des pays à côté comme la Thaïlande, le Vietnam, qui sont des pays extrêmement dynamiques. Donc effectivement, le pays ne s'est pas remis et ne se remettra pas avant longtemps du génocide Khmer Rouge qui a décapité un quart de la population. C'est 2 millions de personnes qui sont mortes en 4 ans.
Et puis au-delà, enfin nous ce qu'on a compris en tout cas en allant faire nos reportages en Cambodge, c'est qu'au-delà du nombre de morts, c'est toute une élite qui a été décapitée, toute une culture, toute une solidarité familiale. Donc c'est un pays qui est vraiment aujourd'hui en phase de reconstruction, mais plus qu'économique.
Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, la logique, si on peut appeler ça une logique, Khmer Rouge, était effectivement de poursuivre les intellectuels, les gens à lunettes. Donc, effectivement, comme vous dites, l'élite cambodgienne n'existe plus aujourd'hui. Voilà pourquoi ce pays, effectivement, est extrêmement pauvre.
Alors, c'est une monarchie constitutionnelle. Hein. Le roi s'appelle Norodom Sihamoni. Il a d'ailleurs célébré ses 10 ans de règne cette semaine. C'est le fils de Norodom Sihanouk, le roi de l'indépendance, qui a abdiqué en 2004, mais ce n'est pas lui, hein, Sybille, qui a le vrai pouvoir.
Non, c'est le Premier ministre Hun Sen qui est au pouvoir depuis près de 30 ans, c'est un ancien Khmer rouge repenti. Et aujourd'hui, il est contesté. L'opposition est en train de se mettre en place. On n'avait jamais vu ça. Nous, quand on était en reportage, on a vu des Cambodgiens descendre dans la rue, vraiment manifester.
Par dizaines de milliers.
Par dizaines de milliers. C'était vraiment incroyable à voir.
C'était fin 2013.
Fin 2013, ça a commencé. Ensuite, donc il y a eu vraiment ce mouvement de ce besoin de contester le régime en place. Puis à cela s'est ajouté un courant, un mouvement de colère des ouvriers du textile. Donc il y a vraiment quelque chose, une énergie politique en train de naître au Cambodge.
Et ça, c'est vrai que c'est nouveau, mais c'est du coup intéressant à suivre, parce que peut-être que le Cambodge peut basculer enfin vers de la démocratie.
Je pense qu'on est dans une période de transition au Cambodge. Transition, effectivement, démocratique, transition économique. On a parlé des dizaines de milliers de Cambodgiens, ouvriers du textile, sous-payés, qui réclament un doublement de leur salaire. Ils ont réussi à obtenir un peu plus de 70 euros par mois de salaire, et ils souhaiteraient en obtenir au moins 120. Donc il y a
177, je crois, aujourd'hui. Les revendications.
Les revendications, ouais, voilà. Mais alors, il y a quelques mois, c'était dans ces alentours de d'un peu plus de 100 euros, parce qu'aujourd'hui c'est seulement 73 euros. Et donc il y a cette mobilisation. Ces Cambodgiens, quand on les rencontre, ils vont pas vous dire non, moi je veux faire ça, je veux faire ci, je revendique telle chose. Donc effectivement, c'est assez novateur, ce mouvement de protestation au Cambodge. Sont pas des gens qui descendent facilement dans la rue. C'est pas des gens qui donnent facilement leur avis sur quand ils sont pas d'accord. Donc ça montre qu'on est vraiment dans un moment où il y a une colère, une colère contre effectivement le pouvoir, une scène au pouvoir depuis près de 30 ans, c'est un Khmer rouge, colère contre justement le fait d'être sous-payé, de travailler des heures dans des conditions intolérables. Donc effectivement, je pense qu'on est dans un moment assez charnière du Cambodge.
Et contre la corruption aussi, qui finalement bloque tout.
Pour moi, on va pas arriver tout de suite à une démocratie, parce que vraiment le pays est extrêmement corrompu, il y a des problèmes d'accaparement de terres, les droits des Cambodgiens sont extrêmement bafoués, donc il y a encore un gros travail à faire avant d'arriver à une démocratie.
En tout cas, c'est un pays en pleine transition, mais qui est aussi très inégalitaire. Ça participe à cette colère, c'est-à-dire que vous disiez 7% de croissance avec une élite qui s'enrichit, mais les plus pauvres qui sont aussi de plus en plus pauvres, et notamment avec plus d'un million de personnes qui sont sans terre aujourd'hui suite aux accaparements de terre. Ça aussi, ça alimente la colère.
Ah oui, bien sûr. Oui, oui, parce qu'on parle d'une scène, par exemple, je crois que c'est une des plus grandes fortunes du monde, une scène. Donc dans un pays
comme... Le premier ministre du Cambodge.
Voilà, le premier ministre cambodgien. Donc effectivement, dans un pays aussi pauvre que le Cambodge, avec l'indice de corruption qu'on a parlé, ils sont 160e, je crois, sur un indice de corruption selon l'ONG Transparency International. Donc ça montre bien effectivement l'état vérolé complètement du pouvoir cambodgien. C'est quelques personnes effectivement qui créent ce taux de croissance, qui gravitent autour d'un homme, qui corrompt complètement le pays. Et à côté de ça, effectivement, dans les campagnes, ça avance pas. Ça continue à être extrêmement pauvre. C'est de l'autosubsistance. C'est de la survie.
Et on va le voir dans un instant avec des extraits de votre web documentaire. Il y a en plus un énorme décalage entre les villes et la campagne.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
មិនមានដោយពីមុនឡើយតាមតបរោះឌីលថ្មេះឲ្យនារីរៀងរាល់ថ្ងៃអីឡូវនេះគ្រប់ខ្ញុំធំស្មើលេខបានអំឡ័យស្រ្តីមានសិទ្ធិខាងនារីបងវល់កន្ទុយជាងក្រានមិនខ្ញុំបានប្រយោជន៍អីឥឡូវមិនមានទេសូមខន្តីនារីមានសិទ្ធិសេរីស្មើបរងហើយ ខ្ញុំជាមរៀបបរោះធ្វើអ្វីបានញាតិសណ្ដាននារីក៏ធ្វើបានដូចបរោះដែរ ំការធ្វើស្រែដាំស្លវៈអវ័យនារីធ្វើបានរហូតដល់ប្រធានាធិបតីឥឡូវ
នេះ
កងទ័ពក៏បានទៀតការពារជាតិការពាររដ្ឋាបានជាគង់ណៃជំរាបយាយតាទុកជាមេដាលើលោកីនារីយើងមានសិទ្ធធំណាស់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់អស់លោកប្រុសស្រីជាមេដាលើលោកីបរោះស្ត្រីស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបាន
សំអ
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Nous vous proposons un week-end spécial Cambodge cette semaine et nous sommes en compagnie de Sybille Véron et Romain Ouzoui pour leur webdoc Sok Sabai, bonne nouvelle du Cambodge qui est publié sur le site de RFI. Alors si vous avez envie de faire ce documentaire, c'est donc pour montrer la multitude de petites solutions qui sont en train de changer la vie des Cambodgiens. Alors c'est souvent à petite échelle, hein, Sybille Véron.
Ah oui, c'est des initiatives personnel souvent qu'on a suivi, par exemple un Toulousain électricien qui
on
a...
va en parler dans un instant.
D'accord, ça je peux pas en parler.
Si vous pouvez en parler, mais on va rentrer dans les détails dans un instant. Mais globalement, c'est, on disait tout à l'heure, c'est un pays qui est sous perfusion avec beaucoup d'aide internationale et beaucoup d'ONG. Et vous, donc, ce sont ces petites initiatives là que vous avez traquées, mais ce sont pas des initiatives qui sont vraiment à l'échelle nationale. À chaque fois, c'est très local.
Oui, c'était important pour nous d'ailleurs de suivre des initiatives plus petites, parce que c'est vrai que souvent dès qu'on tombe dans des grosses ONG, on ne sait pas exactement, il peut y avoir des débordements. Et puis là, ça nous intéressait de suivre des personnalités un peu hors du commun qui ont à un moment eu une idée ingénieuse et ont voulu le développer et voilà, qui se sont rapprochés de la population. Et parfois, c'est un village qu'on va aider et ça peut avoir un effet à petite échelle, mais ça a un vrai effet.
Alors, par exemple, selon la Banque mondiale, un tiers seulement des Cambodgiens ont accès à l'électricité, avec un fort contraste entre la ville et la campagne. C'est sur votre webdoc, je cite le chiffre qui est écrit sur l'écran, 54% des Cambodgiens en ville ont accès à l'électricité contre 13% en zone rurale. Et vous êtes allé au nord-ouest du Cambodge, à Koné Damray. Koné Damray, un petit village de pêcheurs isolé au milieu des rizières où Laurent Talou, le fondateur de l'association Lumière sur le Mékong, a installé des panneaux solaires.
Les zones rurales en Cambodge ont souvent été un petit peu oubliées depuis très longtemps. Et le fait d'accéder à ces populations de l'énergie solaire, c'est quelque chose pour eux d'extraordinaire, parce que habitués à ce qu'on ne demande pas grand-chose, toujours à vivre avec des bougies, avec les lampes à pétrole, ils ont vu peut-être déjà les panneaux solaires. Mais là, qu'on leur amène depuis la France, on vient spécialement pour eux leur amener des panneaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, la première fois que je suis venu, il y avait quelqu'un dans la pirogue qui m'a dit « Mais vous venez pour ça, pour nous spécialement en pirogue, depuis la France, tout ce trajet, cette distance pour venir jusqu'à nous, pour poser des panneaux, pourquoi nous, etc. » Donc ils ont trouvé ça fabuleux, en fait. Ils étaient surpris, très étonnés qu'on s'intéresse vraiment à eux. C'est très intéressant. Le Cambodge ne manque pas de soleil. Donc on peut développer l'énergie, utiliser l'énergie solaire au Cambodge. Les panneaux, on peut trouver en Chine, bon, l'importation, peu importe. Mais on trouve les panneaux pas trop chers, les batteries aussi. Et c'est propre comme énergie. En plus, on ne pollue pas l'environnement, etc.
Ce sont des propos qui conviendraient à d'autres parties du monde, hein. Je pense bien sûr à l'Afrique. Et donc, l'impact de l'arrivée de ces panneaux solaires, vous avez pu la mesurer dans ce village ?
Bah oui, alors l'impact, il est triple, je dirais, puisqu'effectivement, les familles qui gagnent environ 2 euros par jour sont des pêcheurs. On voit vraiment les stigmates de la guerre, pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de personnes amputées, peuvent pêcher plus longtemps grâce aux lampes solaires. Les enfants qui vont pas toujours à l'école sont pas assidus parce qu'il faut aider les familles, et ben savent qu'il faut aller recharger les lampes, donc du coup ils vont à l'école, et puis les enfants peuvent surtout
parce
aussi réviser les cours.
Parce que c'est à l'école qu'on recharge.
Parce que c'est à l'école, effectivement, sur le toit de l'école que les panneaux solaires sont installés. Donc du coup, ça oblige comme ça les enfants à recharger les lampes le matin pour que les parents puissent utiliser le soir, et puis le soir les enfants peuvent aussi utiliser cette lampe pour réviser leurs cours. Et puis il y a une responsabilisation, parce que chaque lampe, sur chaque lampe, le nom de la famille est écrit, les familles doivent tenir un registre, donc Comme ça, il y a aussi une notion, il n'y a pas uniquement on vous donne ses lampes et puis vous vous débrouillez, il y a aussi une notion de responsabilisation pour que les Cambodgiens soient conscients de ce qu'on leur apporte.
Oui, après la question c'est la durabilité de ce genre d'initiative, hein, parce qu'est-ce que les villageois ont été formés pour entretenir ces panneaux, il n'y a pas de modèle économique, c'est un don, donc quand les lampes sont cassées ou les panneaux ne marchent plus, qu'est-ce qui se passe?
Alors la bonne idée de cet électricien, Laurent Talou, ça a été de former un minimum des personnes dans le village ou pas à proximité dans un autre village, vraiment quelqu'un qui puisse entretenir les lampes quand il y a un problème, on peut lui apporter les panneaux solaires, ils sont faits, c'est Cambodia Solar, enfin c'est une entreprise cambodgienne, donc quand même c'est possible pour ces Cambodgiens du village, s'ils cassent une lampe, il peut y avoir une solution. Bon, voilà, à long terme c'est pas pérenne non plus, c'est-à-dire si la lampe est vraiment cassée, qu'est-ce qu'on fait, c'est foutu. Donc ce Toulousain, lui, il revient régulièrement et il compte vraiment former davantage les gens, mais là pour l'instant, c'est vrai que si les lampes sont cassées, c'est un problème.
Alors, on le disait tout à l'heure, une autre initiative, 80% des Cambodgiens vivent de l'agriculture et certains en vivent bien. On vous le prouvera d'ailleurs ce week-end à travers nos reportages avec des riziculteurs dans la deuxième partie de l'émission et des producteurs de sucre de palme et de poivre demain. Mais dans votre webdog, vous montrez une initiative à nouveau de petite ampleur dans la région de Siem Reap, près des temples d'Angkor, mais qui pourrait petit à petit faire tache d'huile. C'est la formation des agriculteurs à l'agroécologie.
En voilà une qui ne vaporise pas, c'est Pumpa. Son secret, elle est passée à l'agroécologie il y a 4 ans.
Pourquoi ça n'atteint pas la santé? Eh bien, notamment parce qu'on utilise des engrais organiques, fabriqués selon les méthodes agroécologiques, avec les matières qui nous entourent. On balaye les ordures tout autour de chez nous et on les garde pour faire du compost. Et quand on a beaucoup de compost, on en met comme ça, un petit peu partout.
En suivant cette méthode, Pumpa se débarrasse des insectes nuisibles sans avoir à utiliser de produits chimiques. Cette femme de 59 ans fait partie des agriculteurs pilotes désignés par l'ONG, le GRET. 4 ans après sa transition agricole, sa ferme constitue un modèle.
Un modèle, mais qui, là aussi, pour le coup, est encore à petite échelle. Mais pourtant, c'est un enjeu très important parce que on utilise beaucoup de pesticides au Cambodge.
Oui, et puis vous l'avez dit, 8 Cambodgiens sur 10 qui travaillent la terre. Donc l'enjeu est colossal. Et ça a changé sa vie. La personne qu'on entend témoigner, elle a multiplié par 7 ses revenus. Elle a augmenté sa surface. C'est un sacrifice parce qu'il y a quand même, c'est long de passer d'une agriculture traditionnelle à une agroécologie, il faut refaire tous les sols. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à confronter deux voisines, une qui utilise des pesticides, l'autre non. Et celle qui utilise des pesticides vous dit, mais moi je suis obligé puisque tous mes voisins utilisent des pesticides. Si j'utilise pas de pesticides, tous les insectes vont venir sur mes choux. Et donc elle est obligée, mais il n'y a aucune conscience des dangers des pesticides. Il n'y a pas de conscience de, il faut se protéger, il faut mettre un masque. Et donc elle sent qu'elle a des problèmes sur la peau, elle sent qu'elle tousse, mais elle va voir un médecin. Mais ça paraît inexorable. Donc effectivement, c'est une urgence sanitaire, ce recours à l'agroécologie au Cambodge. Pour l'instant, ça touche dans le district de Siem Reap, à Siem Reap où le GRET, l'ONG qu'on a suivi, œuvre. Ça touche 2000 paysans. Et surtout, c'est très porteur dans le sens où le GRET fait du porte-à-porte, mais désigne des agriculteurs pilotes qui après dispensent leur savoir sur l'agroécologie à tous les autres agriculteurs. Donc du coup, l'idée, c'est comme ça, faire tache d'huile et faire boule de neige sur ce savoir de l'agroécologie.
Voilà, sachant que ça demande quand même une vraie maîtrise, hein, l'agroécologie, et ça demande aussi une conversion totale du champ, donc ça prend du temps, ça coûte un peu d'argent.
Mais complètement. Je pense que sans cette aide d'ONG, je suis pas sûre que beaucoup d'agriculteurs pourraient opérer ce changement. Mais en même temps, une fois que ils ont opéré cette transition, et ben c'est super pour eux. Vraiment, il y a un meilleur rendement.
C'est ce qu'on disait, c'est que c'est tellement une agriculture d'autosubsistance. La majeure partie des exploitations, c'est 1 hectare. Donc c'est compliqué pour eux, ils sont au jour le jour. Comment vous voulez leur dire, pendant 1 ou 2 ans, on va refaire tous les sols pour qu'après ça sera porteur? Mais non, parce qu'il n'y a aucune vision à long terme. Il n'y a pas de vision à long terme au Cambodge.
Merci à tous les deux d'être passés dans C'est pas du vent. Votre webdog Sok Sabai, bonne nouvelle du Cambodge, est donc visible sur le site de RFI. Et il y a une version Khmer qui est en cours d'adaptation par la rédaction cambodgienne de RFI. Restez avec nous dans quelques minutes. Juste après le flash d'info, nous vous emmenons dans le sud-est du Cambodge à la découverte des riziculteurs de la région de Prenup. À tout de suite.